Bien, nous allons essayer de ce petit dessin que je vous avais donné une fois, hein, pour ceux qui étaient là. Si vous vous souvenez, le petit dessin, hein, sur l'organisme spirituel, l'édifice spirituel, qui essaie de schématiser un petit peu ce qui se passe au-dedans de nous, la vie, ce qu'on peut appeler la vie théologale. Alors c'est une vie un peu mystérieuse que tout cela. Il y a beaucoup de façons d'en parler. Il y aurait la façon du catéchisme, vous donner la définition, etc. Voilà ce que c'est la foi, ce que c'est l'espérance. Bon, c'est bien, on le fera un petit peu au passage. Mais je pense qu'il est plus important peut-être pour nous, pour notre vie personnelle, notre vie intérieure, d'essayer de voir un peu quelles sont les répercussions pour nous, pour moi, de ces vertus théologales, de cette vie théologale. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est bien beau de connaître la définition de la foi, de l'espérance et de la charité, mais pour moi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la foi? Vivre de foi, ouais. Avoir la charité, avoir l'espérance. Ouais. Et je crois que c'est un aspect des vertus théologales qui est trop souvent méconnu. Ce côté chemin intérieur, de vie mystique même. Il ne faut pas avoir peur du mot, vous savez, la vie mystique, c'est pour tout le monde, la vie mystique. C'est pour tous les baptisés, tous les chrétiens. Un enfant qui vient d'être baptisé, il a une vie mystique, déjà. Il n'en a peut-être pas tout à fait conscience, vous voyez, cette vie cachée, cette vie secrète au fond de son âme. Bon, voilà, la présence de Dieu, tout simplement. Eh bien, nous aussi, tout baptisé peut mener, doit même mener une certaine vie mystique, vie intérieure, vie d'amitié, d'amour, d'échange avec Dieu, avec la Sainte Trinité. Et la vie mystique, c'est reproduire un petit peu en nous ce qui se passe dans la Sainte Trinité. C'est un peu mystérieux, ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On adore, mais on ne comprend pas très bien ce que c'est, tout ça. Eh bien, c'est un petit peu cela aussi qui se déroule au fond de notre âme, et c'est un monde merveilleux, extraordinaire, ouais. Et un monde par lequel nous pouvons accéder justement par les vertus théologales. Ouais. Ce sont elles qui vont nous mettre en contact avec ce monde divin caché au fond de notre âme. Ouais. Toute cette vie de silence, ouais, qu'il ne faut pas oublier, le chrétien est un homme de silence. Hein. Le baptisé est un homme de silence parce que Dieu est silence. Dieu est silence. Vous avez des très très beaux passages dans l'Écriture. Bien sûr, tout est beau dans l'Écriture, donc on ne peut pas se tromper. Mais quelques passages qui sont magnifiques, quoi, justement, qui montrent bien que Dieu ne se révèle que dans le silence. On ne peut connaître Dieu, on ne peut apercevoir quelque chose de lui, et vraiment, j'ai commencé à le goûter que dans le silence. Dieu ne se révèle pas dans le vacarme, dans la tempête et dans les trompettes, etc. Il y a des trompettes d'abord pour faire taire tout le monde, puis après, c'est le silence. Ouais. Bon, avis aux amateurs de fanfare. Ouais. Ouais. Allez, par exemple, dans ces grandes révélations que Dieu fait de lui-même à Moïse, vous connaissez un petit peu ce passage au mont Sinaï. Vous avez ça dans l'Exode, au chapitre 33, verset 18 et suivant. Moïse dit à Dieu, donc il parle à Dieu, à Yahvé, « Faites-moi voir votre gloire. » Voilà. Moïse qui demande à Dieu, « Ben voilà, faites-moi voir votre gloire. » Montrez-vous à moi, pratiquement. Voilà, j'ai envie de vous voir, à quoi vous ressemblez, comment vous êtes. Yahvé répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé, car je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et ça aussi, c'est un verset qui serait à méditer. Hein. Oui, cette liberté de Dieu, hein. Ça nous ramène un petit peu à ce que nous disions la fois précédente, hein. Cette liberté de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Il est maître de sa grâce, maître de sa vie, il la donne à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et personne ne peut rouspéter auprès de lui. Personne. Parce que Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Nous n'avons aucun droit sur Dieu. Et Yahvé dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il ne peut pas voir Dieu et vivre. Ouais, pour voir Dieu, il faut être mort. Il faut être dans l'éternité, oui. Mais un vivant ne peut pas avoir Dieu. C'est trop, on ne peut pas supporter ça, sa vue. Ouais. Et Yahvé dit, et voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, donc quand je passerai, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Hein? Je te couvrirai de ma main, voilà, parce que tu ne peux pas me voir. Ouais. Donc je vais me révéler à toi, mais dans la ténèbre, dans l'obscurité, parce que tu ne peux pas me voir. Alors après, bien, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Par derrière. On ne peut voir Dieu que par derrière. Ouais. Mais ma face ne saurait être vue. Ouais, ouais. Ouais, Dieu lui-même le dit, on ne peut pas me voir. Ouais. Et pourtant, nous sommes faits pour voir Dieu. Ouais. Et un autre passage, c'est au prophète Élie, au même endroit, hein, au même lieu géographique, le mont Horeb, le mont Sinaï. Le prophète Élie également, qui est conduit par Dieu après 40 jours de désert jusqu'au mont Horeb. Et Dieu, eh bien, va se révéler aussi, va se faire connaître à Élie, au prophète Élie, le grand Élie. Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici que la parole de Yahvé, alors vous avez ça, pardon, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 9 et suivant. Et voici que la parole de Yahvé lui fut adressée et il lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai été plein de zèle pour Yahvé, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné votre alliance, renversé vos autels et tué par l'épée vos prophètes. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » Oui, il ne faut pas s'affoler. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, la crise dans l'Église. Hein. Ouais. Ah, déjà, hein. Et le pauvre, il était tout seul. Ils ont tout renversé, déjà. Et puis je suis tout seul. Bon, m'en fous. N'inquiétez pas pour ça. Yahvé dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé, car voici que Yahvé va passer. Il y a aussi, oui, Yahvé va se faire connaître, Élie va passer. Et il y eut devant Yahvé un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Yahvé n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Yahvé n'était pas dans le feu. Et tout ça est très, 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 très instructif pour nous. Hein. Parfois, on cherche le bon Dieu. Où il n'est pas. Les trucs, hein, pff, ça fait du tonnerre, ça bouge de tous les côtés. Non, 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 non. Bon Dieu n'est pas là-dedans. Et après le feu, un murmure doux et léger. Attention, là. Attention. Un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et étant sorti, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici qu'une voix se fit entendre à lui en disant, « Que fais-tu ici, Élie ?» Voilà. Et c'est là que Dieu va se révéler à Élie, va lui donner sa mission. Ouais, mais, ouais. Dans quel moment, en fait, dans quel cadre, un petit peu, Dieu se fait entendre à Élie? Eh bien, c'est dans un murmure doux et léger. Hein, ce n'est pas dans le vacarme. Eh bien, ceci pour nous est très, très, très révélateur, hein, justement, de ce qu'est la vie chrétienne, une vie de silence. Hein. Dieu est silence, et Dieu ne se révèle que dans le silence. Parce que la présence de Dieu, elle est là, dans le secret de notre âme. Et le secret de notre âme, c'est un lieu de silence. Ouais. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ, nous dit saint Paul. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Vita abscondita in Deo. Oui. Donc il s'agit pour nous de nous cacher, justement, de nous cacher en Dieu avec le Christ. Donc de fuir un petit peu tout ce qui remue autour de nous pour essayer un petit peu de vivre dans ce qui ne remue pas, justement, mais au-dedans de nous. Et c'est cela la vie théologale. Oui. Ça n'est pas, attention, hein, ne nous imaginons pas que ce soit... Et vivre tout le temps les yeux fermés, les oreilles bouchées. Non, non, pas du tout. Hein. Ce n'est pas ça, mais... Vivre, prendre ses raisons de vivre, ses raisons d'agir, ses raisons de penser, ouais, ses raisons de parler, au-dedans de soi-même, et non pas à l'extérieur de soi-même. Ouais. C'est cela un petit peu la vie théologale. Alors cela, bien sûr, est difficile et redoutable même, parce que ça n'est pas tellement, on n'est pas tellement habitué à cela. Ce n'est pas naturel pour nous. Mais c'est la seule façon de mener une véritable vie chrétienne, une véritable vie théologale. Hein. Nous avons considéré un petit peu ce que la grâce opérait dans notre âme, donc cette transformation de notre âme, ouais, notre âme qui est transformée dans son être, notre âme qui a son être naturel, toujours bien sûr, mais qui en plus est en quelque sorte divinisée, déifiée par la présence de Dieu, par la présence de la grâce, la présence de la Sainte Trinité. Donc notre nature, notre âme est transformée radicalement, substantiellement dans son être. Il y a une différence substantielle, radicale, entre l'âme d'un baptisé et l'âme d'un non-baptisé. Même entre l'âme d'un baptisé qui a perdu l'état de grâce, vous voyez, bon, parce qu'il garde le caractère du baptême, il garde le caractère de la confirmation, il y a une différence radicale, essentielle, entre cette âme et puis l'âme d'un non-baptisé, qui n'est que dans son être naturel, qui est donc toujours dans le péché originel, etc. Différence radicale, ça. On ne peut pas les comparer. Il y a comme, vous voyez, deux ordres différents. Ouais. Ils sont hommes tous les deux, mais si on peut dire que deux sous-espèces d'hommes différentes, le non-baptisé et le baptisé. Parce que le baptisé, par son baptême, par ce caractère baptismal, eh bien, il est marqué, justement, du sceau de Dieu. Il est marqué du sceau de la Sainte Trinité. Ce que n'est pas le non-baptisé. Et quoi que nous fassions, même les damnés en enfer, eh bien, ils gardent gravé sur eux, sur leur âme, le sceau de la Sainte Trinité. Voilà. Ils sont marqués par Dieu, ils sont faits pour Dieu, même s'ils ne vivent pas en Dieu. Vous voyez, donc notre nature qui est, notre âme qui est transformée, qui est, si on peut dire, un petit peu adaptée par Dieu lui-même, à Dieu, notre âme qui est faite pour Dieu, voilà, et qui, eh bien, doit maintenant vivre avec Dieu. Et c'est là que commence toute la difficulté pour nous. Ouais. Comment vivre avec Dieu? Comment vivre selon ce mode divin alors que nous ne sommes pas Dieu? Nous sommes toujours hommes. Nous avons besoin, donc, eh bien, il faut que Dieu nous donne des puissances, des capacités d'agir selon un mode divin. Il ne suffit pas d'être, je dirais, transformé dans son être, mais il faut encore que nous agissions. Ouais. C'est comme notre nature. Ouais. Nous avons notre nature. Voilà, nous avons notre corps et notre âme. Bon, c'est bien, nous sommes hommes, mais il faut encore que nous agissions. Notre vie, elle est faite d'actes. Il faut que nous posions des actes. Eh bien, il y a dans notre nature des puissances d'action qui nous permettent d'agir, de poser des actes d'homme. Des puissances d'action qu'il n'y a pas chez les animaux. Les animaux n'ont pas l'intelligence, les animaux n'ont pas notre volonté, ils ne peuvent pas agir comme nous agissons nous-mêmes. Nous avons des puissances d'action naturelles, humaines. Eh bien, il nous faut, puisque nous sommes transformés également, des puissances d'action surnaturelles, des capacités, des possibilités de poser des actes surnaturels. Oui. Mais quelles sont ces capacités, quelles sont ces puissances? Eh bien, ce sont les vertus, justement. C'est ça? Une vertu, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité d'agir. Oui. C'est une possibilité, une puissance d'action, une vertu. Oui. Voilà. Nous avons des vertus qui sont capables, qui nous rendent capables de poser certains actes. Oui. Certains actes surnaturels. Oui. Nous ne pouvons pas faire du surnaturel sans cela. Oui. Notre nature, elle est condamnée au naturel. Qu'est-ce que vous voulez faire, ça? Et si nous voulons faire du surnaturel, quelque chose qui dépasse, qui transcende les puissances, les capacités de notre nature, eh bien, il faut que Dieu nous donne ses capacités de faire du surnaturel. Et c'est ce qu'il nous donne avec la grâce. Tout cela est donné avec la grâce. Les théologiens appellent ça habituellement le cortège de la grâce. Voyez. Dieu, lorsqu'il donne sa grâce à une âme, que ce soit la grâce sanctifiante, cette grâce-là est accompagnée de tout ce qu'on appelle le cortège de la grâce. C'est ce que vous avez sur ce petit schéma. Ce sont les vertus théologales, les vertus morales infuses, et puis les dons du Saint-Esprit. Voilà un petit peu ce que sont, je dirais, les vertus théologales. Comme des, comme des sources permanentes d'activité surnaturelle. Des sources d'activité surnaturelle permanente qui demeure en nous. Et avec ces vertus, là, je peux poser des actes surnaturels. Des actes surnaturels, pourquoi faire? Eh bien, pour atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu en lui-même. Avec ces vertus surnaturelles, je peux toucher Dieu. Je peux atteindre Dieu en lui-même par un acte spirituel, bien sûr. Ce n'est pas un toucher physique, c'est un toucher moral, un toucher spirituel. Et sans ces vertus, je ne peux pas toucher Dieu, je ne peux pas atteindre Dieu. Or, il faut que j'atteigne Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis baptisé, je suis membre de la famille divine, et bien il faut que je vive en société divine. Voilà. Il faut que je vive, que je sois dans la Sainte Trinité, que je vive avec la Sainte Trinité comme un membre de la famille. Et comment vivre, je dirais, comme un membre de la famille divine si je n'ai pas justement ces puissances surnaturelles qui me permettent eh bien, de faire en quelque sorte du divin, du quasi-divin. Un acte d'une vertu surnaturelle, c'est un acte qui a quelque chose de divin. Et alors là, eh bien, quand j'agis selon ces modes surnaturels, eh bien, Dieu me reconnaît, ben oui, tiens, celui-là, il est de ma famille. Il est de ma famille, c'est un de mes enfants. Oui. Alors que si je ne fais que des actes de vertu naturelle, même s'ils sont bons, bon, Dieu sera bien content, il admirera peut-être, bon, c'est bien, il fait le bien, mais tu n'es pas de ma famille, tu n'es pas un des miens. Oui. Or, nous sommes co-héritiers du Christ, nous sommes héritiers de l'héritage céleste, de la patrie céleste, et nous devons nous comporter ici-bas, déjà, comme des membres de la famille divine. Et donc, il faut que notre activité acquiert une certaine qualité, une certaine puissance, oui, divine. C'est là le rôle des vertus théologales que Dieu nous donne. Dieu nous les donne, attention, ça, grâce à Dieu, oui, enfin, c'est le cas de le dire. C'est Dieu qui nous les donne. Avec la grâce, nous sont données également les vertus surnaturelles, les vertus théologales, les vertus morales infuses et les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas les obtenir par soi-même. Ne nous faites pas d'illusions, ne cherchez pas à acquérir telle ou telle vertu théologale, non. Nous pouvons acquérir des vertus morales, on peut acquérir la vertu de prudence éventuellement, la vertu de tempérance, c'est pas mal. On peut avoir tout un tas de vertus comme ça, naturelles, certaines peuvent être acquises. Mais les vertus théologales ne peuvent pas être acquises. La foi, l'espérance et la charité, surnaturelles bien sûr, ne s'acquièrent pas. Elles sont des dons de Dieu, c'est Dieu qui les donne avec sa grâce. Et chaque fois que Dieu donne sa grâce, il donne les vertus et les dons. Nous pouvons les perdre, bien sûr, et Dieu peut les redonner, à certaines conditions, bien sûr. Il ne les donne pas comme ça, il ne les redonne pas comme ça n'importe quand, et sans condition. Bon, ça c'est une autre question. Alors ces vertus théologales, il ne faut pas croire que ce soit aussi des inventions de théologiens, etc. Cela appartient à la révélation. Vous connaissez, je pense, pour les avoir entendus quelquefois quand même, certains textes qui nous parlent de ces vertus théologales. Ce n'est pas du tout une invention de saint Thomas d'Aquin. Le texte le plus célèbre, bien sûr, c'est l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 13, qu'on appelle l'hymne à la charité. Vous connaissez ça presque par cœur, bien sûr. Presque. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Etc. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand bien même j'aurai la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nihil sum, rien. Nihil, nada. Il sent toutes les langues que vous voudrez, rien. Attention, rien dans l'ordre surnaturel, bien sûr, dans l'ordre du mérite. Naturellement, bien sûr, je suis toujours ce que je suis, mais ça ne sert à rien dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre du mérite, dans l'ordre du salut. Rien. Si je n'ai pas la charité, et c'est normal. Pourquoi? Parce que la charité, c'est la grâce. La charité, c'est Dieu. Ouais. Bon, nous en reparlerons tout à l'heure un petit peu justement de cette charité. Et ensuite, saint Paul décrit la charité. toutes les qualités de la charité, nous verrons cela un peu plus tard. Ouais. Et c'est à la fin, là, de ce, c'est au verset 13, justement, que saint Paul, eh bien, nous donne l'énumération des vertus théologales. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Voilà, c'est un passage qui est assez connu. Ouais. C'est le lieu classique auquel les théologiens se réfèrent pour montrer, mettre en valeur, eh bien, que l'existence de ces vertus théologales est révélée par Dieu. Ça appartient à la révélation, c'est un dogme de foi. La foi, l'espérance et la charité, ces trois choses demeurent maintenant. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Il en reparle dans d'autres épîtres en les mettant dans un ordre différent. Bon, on ne va pas trop se casser la tête là-dessus parce que il les présente selon un autre ordre, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens. L'épître aux Thessaloniciens, c'est au chapitre 1er, verset 3 par exemple. Nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de grâce pour vous, frères, ainsi qu'il est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que votre charité les uns pour les autres s'accroît de plus en plus. Ainsi, nous-mêmes, dans les églises de Dieu, tirons-nous gloire de vous à cause de votre constance et de votre fidélité au milieu de toutes les persécutions et de toutes les tribulations que vous avez à supporter. Cela, c'est l'espérance plutôt. Voyez. Donc la foi, la charité et l'espérance. Au chapitre 5 également, de la même épître, au verset 8. Pour nous qui sommes du jour, soyons sobres. Bon. Prenons pour cuirasse la foi et la charité, et pour casque l'espérance du salut. Voilà, vous avez les trois aussi. Hein. Pour cuirasse la foi et la charité, et pour casque l'espérance du salut. D'ailleurs, beaucoup de choses à dire aussi. Ça, c'est... Il y a cette symbolique militaire. Là. Ouais. Cuirasse, la foi et la charité. Le casque qui protège la tête, hein, c'est l'espérance qui nous protège la tête contre les mauvais coups qu'on prend. Et on en prend des mauvais coups dans une vie, si vous voulez. Et qu'est-ce qui nous permet de continuer à avancer? Eh bien, c'est le casque. Parce qu'on a un bon casque qui nous a permis de tenir bon. C'est l'espérance. Eh oui, et c'est vrai. C'est lié là. L'image est tout à fait juste. Oui. Et vous avez un autre texte dans l'Ancien Testament. Bien sûr, vous voyez cette révélation. Les trois vertus théologales est claire, explicite dans le Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, quand même, Dieu avait laissé un petit peu entrevoir la chose. Vous avez un très très beau texte que l'Église applique à la très sainte Vierge Marie. C'est au livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 24, verset 17. On connaissait ça, on l'a assez souvent dans les épîtres. Des messes de la Sainte Vierge. Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte de Dieu, de la science et de la sainte espérance. C'est très beau ça. Et voilà, vous avez les trois théologales aussi. Je suis la mère du pur amour, bon, c'est la charité, de la crainte de Dieu, bon. Ça va se raccrocher un petit peu à l'espérance, de la science. La science et la foi, bien sûr, science surnaturelle, et de la sainte espérance. Oui. Donc, vous voyez, c'était l'existence de ces trois vertus théologales, et clairement, et il y a d'autres textes, bien d'autres textes de l'Écriture, surtout, bien sûr, c'est saint Paul, surtout, qui va expliciter, exposer, hein, essayer d'expliquer un petit peu aux chrétiens ce que sont ces vertus théologales. Mais là, la révélation est claire, hein, quant à l'existence de ces vertus théologales qui ne sont pas acquises, hein, encore une fois, mais qui sont infuses par Dieu. C'est un don de Dieu. Donc il ne s'agit pas de chercher à les acquérir. Je vais acquérir la foi, je vais acquérir l'espérance. Non, on peut s'y disposer, bien sûr. On peut s'y préparer à certaines conditions, on peut se disposer à recevoir un surcroît de foi, ouais, un surcroît d'espérance, un surcroît de charité, bien sûr, mais ensuite, le don de ces vertus dépend de Dieu. C'est gratuit, cela. Ouais. Et ce sont les apôtres qui, une fois, demandèrent à notre Seigneur d'augmenter notre foi. Ouais, augmenter notre foi. Et c'est une demande que nous pouvons faire sans cesse, cela. Et c'est une oraison aussi que nous faisons, je ne sais plus à quel dimanche, après la Pentecôte, 13e peut-être, je ne sais plus. Ô Dieu, augmentez en nous hein, la foi, l'espérance et la charité. Nous demandons, et ça, il faut le supplier sans cesse, que Dieu augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Car ces vertus, bien, encore une fois, donc, sont des dons de Dieu. Des dons de Dieu pour diviniser, justement, nos puissances et nous rendre capables de surnaturel. Alors, si l'on rentre un petit peu dans l'examen de ces vertus, on peut déjà peut-être un petit peu les considérer les trois dans leur cheminement, dans l'ordre de leur génération. C'est ce texte du Concile de Trente que nous avons déjà évoqué la dernière fois, si vous vous souvenez. Lorsque le Concile de Trente nous parlait de la justification, comment s'opère la justification d'une âme, oui. Eh bien, par quoi les choses commencent-elles? Toujours par la foi. Toujours par la foi. Les hommes sont disposés, nous dit le Concile de Trente, les hommes sont disposés à la justice elle-même quand poussés et aidés par la grâce divine, la foi qu'ils entendent prêcher se formant en eux, ils se tournent librement vers Dieu, croyant à la vérité de la révélation et des promesses divines. Donc la justification commence toujours par un acte de foi. On ne peut pas commencer par ailleurs. Il faut commencer par croire. Il faut avoir reçu une certaine prédication de la vérité, de la révélation, de l'évangile, et adhérer à cette révélation, adhérer à cette prédication, admettre. Voilà, ce message qui nous est transmis par les prédicateurs. Ouais. Donc, croyant à la vérité de la révélation et des promesses divines, à celle-ci notamment, que Dieu justifie l'impie par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et ça, c'est cette foi qui est nécessaire au salut. On ne peut pas se sauver sans cette foi élémentaire. Élémentaire, croire en quoi ? Eh bien, que Dieu est sauveur, que Dieu est rédempteur, que Dieu nous sauve, oui, et nous récompensera. Oui. Que Dieu justifie l'impie par sa grâce au moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Voilà. Donc, c'est le premier stade, ça, nécessaire de la justification. Hein, Saint Paul le dit, la foi, c'est le commencement du salut. Initium salutis. Il n'y a pas de salut possible sans la foi. On avait cela ce matin dans l'évangile, hein, cet évangile que l'on utilise, que l'Église a choisi pour la fête de la Sainte Trinité, bien sûr, puisque c'est là qu'il y a cette révélation explicite par Jésus-Christ de la Sainte Trinité. Allez baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas, celui qui ne croira pas, même s'il est baptisé, sera condamné. Celui qui ne croira pas, c'est la condition du salut. La foi est plus nécessaire que le baptême. Et de toute façon, le baptême lui-même ne sauve que par la foi qui est inclue. Et c'est ainsi que les justes de l'Ancien Testament pouvaient se sauver par la foi. Ils n'avaient pas le baptême, mais ils se sauvaient par la foi. C'est la foi toujours qui sauve. Il n'y a pas de salut possible sans la foi. Alors, qu'en est-il justement de tout ce qu'on nous entend raconter? Tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur hein, tout le monde se sauve par toutes les religions possibles, imaginables, que vous croyez en Jésus-Christ ou non, peu importe, vous serez sauvés si vous êtes sincère. Vous voyez, sincère, voilà, c'est la grande vertu aujourd'hui. Bon, moi je ne vois pas très bien ce que c'est que cette sincérité dans une foi qui n'est pas la foi qui sauve. Ça ne sert à rien, c'est strictement à rien. Bon, c'est Dieu qui juge, bien sûr, ça, on ne peut pas savoir. En soi, la sincérité n'est pas une vertu salutaire, si vous voulez ça. C'est bien, il vaut mieux être sincère que ne pas l'être, c'est clair, ça. Mais est-ce que ça suffit, ça? Vous voyez donc la foi. Alors ensuite, quand comprenant qu'ils sont pécheurs, voilà la foi. Bon, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est sauveur, que Dieu est rémunérateur. Bon, voilà, très bien. Bon, et donc il faut que je croie aussi que je suis pécheur. Si je ne suis pas pécheur, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Bon, c'est sûr. Quand comprenant donc qu'ils sont pécheurs, et en passant de la crainte de la justice divine qui les ébranle salutairement, la crainte est le début de la sagesse, hein, mais oui, un petit coup de terreur, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc, passant de la crainte de la justice divine qui les ébranle salutairement à la considération de la miséricorde de Dieu. Voilà. Vous voyez, on passe de la considération de la justice, bon, ça fait un peu peur plutôt, à celle de la miséricorde. Dieu est bon. Alors là, on passe à ce moment-là de la crainte à quoi ? À l'espérance. Eh oui. Donc, passant de la crainte de la justice à la considération de la miséricorde, il s'élève à l'espérance. Confiant que Dieu, à cause du Christ toujours, il n'y a pas de salut en dehors du Christ, leur sera favorable. Et alors, eh bien, troisième stade de la justification, quand il commence à l'aimer. Voilà. Je crois en Dieu, j'espère en Dieu, j'espère en sa miséricorde, et je commence à l'aimer. Quand il commence à l'aimer comme la source de toute justice, et pour cette raison se retourne contre leur péché dans une sorte de haine et de détestation, etc., etc. Oui, très beau, c'est un petit texte qui est magnifique, hein, qui décrit tout à fait bien. Je pense cette la génération des vertus théologales, comment l'une engendre, si on laisse faire le bon Dieu, bien sûr, comment l'une engendre l'autre. La foi engendre nécessairement l'espérance, et l'espérance conduit nécessairement à la charité, si on laisse faire la grâce, si on laisse Dieu agir selon ses désirs. Oui. Oui, c'est important, je crois, de considérer un peu l'enchaînement, oui, de ces trois vertus théologales. C'est là l'ordre logique, l'ordre normal, oui, selon lequel ces trois vertus se succèdent dans une âme. Et quelle est justement la vertu radicale ? Eh bien, c'est la vertu de foi. C'est pourquoi Jésus-Christ ne cesse de prêcher la foi. Hein. Croyez en mon Père, croyez en moi, etc. Et c'est pourquoi saint Paul ne cesse de prêcher la foi. Et c'est pourquoi l'Église ne cesse de prêcher la foi. Et quel est le rôle de l'Église ? Eh bien, justement, c'est de maintenir la foi sur la terre. La foi. Pas seulement la foi, mais c'est le plus important. Et le plus important, on peut perdre la grâce, hélas. On peut perdre la grâce, on peut perdre la charité. Le péché mortel nous fait perdre la charité. Mais ça, tant que nous n'avons pas perdu la foi, rien n'est perdu de façon définitive. Celui qui a perdu la foi, on voit difficilement comment il peut s'en sortir. Hein. Celui qui a gardé la foi, bon, cette foi est peut-être morte, elle est peut-être enfouie, bon, voilà, elle est complètement ou presque éteinte, mais elle est encore là. Il croit quand même que Dieu existe. Oui, oh, c'est vrai, non, Dieu, c'est vrai, moi, je... Oui, c'est bien votre religion, Dieu, c'est vrai, il est bon, Jésus-Christ, quand même, c'est bien tout ça, mais c'est toujours ces affaires, moi, c'est pas les fous, j'aille jouer au foot, ou je sais pas quoi, alors, voilà. Bon, voilà. Bon, mais il y a un petit quelque chose, il croit quand même, mais enfin, c'est pas perdu. Ben, il suffira parfois d'une petite secousse, ou un bon prédicateur qui passe par là, bon, pour lui mettre les quelques petites idées d'aplomb, et puis, voilà, qu'il accepte, et bien, de reconnaître qu'effectivement, ben, ce Dieu auquel il croit, mais il ferait bien de l'aimer un petit peu, comme ce serait pas mal, ce serait même beaucoup mieux. Ouais. Bon, puis, ben oui, tiens, on va se confesser, recommencer à pratiquer les sacrements, très bien. Et celui qui n'a plus la foi, celui qui n'a pas la foi, qu'est-ce que vous voulez faire? Celui qui vous dit, vos dieux, il dit, c'est bon, c'est des histoires, c'est des sornettes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Alors, on peut essayer, bien sûr, hein, de lui démontrer l'existence de Dieu, mais c'est pas toujours facile. Pas toujours évident. Hein. Bon, ça dépend aussi des personnes à qui on a affaire, ouais, tout cela. Pas toujours facile. Et quelqu'un qui a perdu la foi en plus, quelqu'un qui a eu la foi et qui a perdu la foi ou qui a rejeté la foi, ben, il faut un drôle de tremblement de terre, hein, pour que la foi revienne. Hein. C'est le drame de nos nations aujourd'hui, nos nations apostates justement, qui ont eu la foi, qui ont été chrétiennes et qui l'ont rejetée de façon explicite et volontaire. Comment voulez-vous maintenant leur redonner cette foi qu'elles ont rejetée et qu'elles rejettent toujours par les institutions? Ouais. Comment voulez-vous faire? Ouais. Bon, c'est pas impossible, bien sûr, mais il faudra un beau tremblement de terre, quoi, ou je sais pas trop quoi, mais il faudra vraiment bien secouer les choses. Ouais. Perdre la grâce, oui. Donc perdre la grâce, c'est perdre la charité. Mais l'espérance et la foi peuvent très bien demeurer dans cette âme qui n'est plus en état de grâce, qui n'a plus la charité. La foi peut demeurer, l'espérance aussi peut demeurer. Certaines espérances un peu vagues comme ça, oui, mais qui ne sont plus à ce moment-là des vertus proprement théologales. Oui, parce qu'il n'y a plus cette sève, cette force, cette puissance surnaturelle que donne la grâce. Oui. Mais elle demeure. Oui. Les démons ont la foi. Ils n'ont plus l'espérance, ça c'est clair, hein, ça, c'est fini pour eux. Ils n'ont plus la charité, c'est clair aussi. Mais ils ont la foi, les démons, hein. Attention, hein. Eh oui, ils croient que Dieu existe, mais tiens, ils savent bien qu'il existe, puisqu'ils sont enfermés dans la marmite. Ils savent bien qu'ils sont enfermés par quelqu'un qui les dépasse, et ils ne peuvent pas en sortir. Ils croient en Dieu. Ils savent très bien qu'il existe, mais ben, qu'est-ce que c'est que cette foi, ouais. À quoi ça leur sert? À souffrir. C'est une foi qui est... Je dirais qu'il est la source de leur souffrance, de leur plus terrible souffrance. Oui. Et ça ne leur sert à rien, bien sûr. Donc avoir la foi, c'est très bien, mais est-ce que ça suffit? Avoir la foi. Oui. Les démons ont la foi. À quoi ça leur sert? À rien. Alors il s'agira justement eh bien, de vivre de foi. Hein, c'est autre chose. Alors parlons un petit peu justement rapidement de cette vertu de foi. Je pense quand même sur elle que je m'attarderai le plus, car c'est la plus importante. Si vous voulez. C'est... La plus importante, c'est la foi. La plus... Je ne sais pas comment dire ça. Elles sont belles toutes les trois, hein, c'est sûr. Hein. La plus belle, c'est la charité, c'est sûr. Ça. La charité, c'est Dieu. Alors, c'est celle qui nous unit à Dieu. Hein, ça, c'est vrai. La charité, la foi, c'est celle qui nous met en route. C'est le propulseur, je ne sais pas comment... Voilà. Elle nous met en route vers Dieu, mais attention, hein, on n'y est pas encore tout à fait. Voyez. La charité, c'est celle qui nous jette en Dieu. Voilà. On est perdu dans l'océan de Dieu. Magnifique, ça. Alors ça, c'est la charité qui aura son apothéose dans l'éternité, c'est sûr, ça. Voilà. Formidable, là. Dans l'éternité, on nage dans le bon Dieu. C'est extraordinaire, ça. Voilà. On se retourne de tous les côtés, c'est toujours du bon Dieu. Bon, parfait. Ce sera bien, ça, vous verrez, quand vous y serez. Quand nous y serons, j'espère. Et puis entre les deux, il y a une autre vertu. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup, cette petite vertu, là, la petite espérance, là, très, 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 très douce, mais très fragile. Une vertu un peu inquiète. Oui. C'est la vertu qui attend tout, mais qui ne possède rien. C'est terrible, l'espérance. Elle promet tout, l'espérance, et elle donne rien. Et quand même. Mais elle promet. Alors, elle nous fait avancer, comme ça, on tire la langue, mais elle donne encore rien. C'est la charité qui donnera. Oui. Mais elle est entre la foi et l'espérance, entre la foi et la charité, mais on ne peut pas aller de la foi à la charité sans l'espérance. C'est pas vrai, ça ne pouvait pas y aller, ne pouvait pas faire l'économie de l'espérance. Ouais. Et c'est la vertu, enfin nous en reparlerons, c'est un petit peu en désordre tout ça, mais enfin tant pis, vous débrouillerez. C'est la vertu, si vous voulez, la plus, je dirais, la plus adaptée à notre condition actuelle. Ouais. C'est la vertu dont on a peut-être le plus besoin ici-bas, car c'est celle qui est le plus menacée ici-bas. Pour perdre la foi, quand même, je crois qu'il faut... Bon, ça peut arriver, bien sûr, mais enfin... Bon, voilà. Je crois qu'il faut quand même un bon truc, quoi. Il faut quelque chose de seul pour perdre la foi. Perdre la charité, malheureusement, ça... Bon, ça peut arriver, mais enfin, si on fait attention, si on aime bien le bon Dieu, quand même, bon, quelques précautions, ça va bien, on y arrive à peu près, j'espère. Mais l'espérance, elle est tout le temps menacée. On est toujours en train de recevoir des tuiles sur la tête et des pépins à droite et des pépins à gauche. On dit, ben mon Dieu, ben, vous m'aimez, ben oui, d'accord, je vais bien vous croire, mais pas très évident. Hein. Hein. Les promesses de Dieu, on croit que Dieu est amour, on croit dans les promesses de Dieu, et puis finalement, il ne nous envoie que des coups de bâton sur la tête. Alors, il y a parfois, je dirais, à vue humaine, une certaine contradiction entre les promesses de Dieu et puis ce qu'effectivement il nous donne. Et donc l'espérance, c'est comme une vertu très fragile, mais très très belle, très douce. Ouais. C'est celle justement qui apaise un peu nos cœurs quand ils sont dans l'angoisse, quand ils sont dans la difficulté, dans le trouble, dans la ténèbre, etc. Ouais. Et ça, si vous revenez un petit peu à ce que nous disions au début, ouais, la vie avec Dieu est une vie de ténèbres. Dieu est silence, Dieu est secret, Dieu est mystère. Alors vous savez, nous dans le mystère, bon, on est un peu perdus. Et donc, on n'y comprend plus rien à ce qui se passe chez le bon Dieu. On voudrait qu'il parle un peu, mais il ne parle pas très fort, le bon Dieu. Alors, on ne comprend plus rien à ce qui nous arrive. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de rester paisibles, de continuer à avancer? Et c'est l'espérance. L'espérance fondée sur la foi, bien sûr, car si j'espère, c'est parce que je crois, et qui me conduit à la charité, voilà, à la préférence. Oui, mais je préfère ce Dieu qui se tait à ce monde qui braille autour de moi. Voilà. Dieu ne dit rien, d'accord, c'est vrai, mais quand même, je sais qu'il est meilleur que tout ce que me promet le monde. Mais ça, je ne peux, oui, vivre comme ça que par la vertu d'espérance. Enfin, revenons donc à notre vertu de foi. Alors, la vertu de foi, bien, vous aviez, donc tout à l'heure nous parlions de cet hymne à la charité, c'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, et vous avez dans l'Écriture également un hymne à la foi, ce qu'on pourrait appeler hymne à la foi, pas la joie, autre chose. C'est dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11. Bon, pratiquement, on dirait toute la chapitre 10 et 11, mais surtout le chapitre 11. Quand saint Paul parle un peu justement de cette foi des patriarches, la foi des anciens, il donne là une certaine définition de la foi et qui est très importante pour se garder de tout un tas d'erreurs que l'on peut se faire sur la religion chrétienne. La religion chrétienne qui est une religion de foi, et donc une religion de ténèbres, une religion de mystère, crucifiante. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des jours où on aimerait voir, on aimerait comprendre, mais on ne comprend pas. Mais on adhère, on fait confiance au bon Dieu, c'est tout, parce que Dieu a parlé. Et ça, c'est la parole de Dieu. Bon, ben voilà, c'est tout, Dieu a parlé, donc il a raison, oui. Même si je ne comprends pas, il a raison. Et voici donc ce que dit saint Paul au chapitre 11, cet épître aux Hébreux, verset 11. « Or la foi est la substance des choses que l'on espère, la substance des choses que l'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. » Une conviction des choses que l'on ne voit point. Ouais. La foi, eh bien, je crois précisément en ce que je ne vois pas. Je crois en ce que je ne constate pas. Ouais. Voilà ce que c'est la foi. La véritable foi théologale, ouais, c'est cette certitude de l'invisible, cette certitude de ce que je ne vois pas, de ce que mon intelligence ne peut pas découvrir par elle-même, mais que Dieu m'a dit. Parce que la parole de Dieu, elle est plus certaine que ce que me disent mes yeux. Eh oui. Si j'ai la foi, je regarde cette montagne, je la vois verte, et si Dieu, et c'est Dieu qui arrive, et qui me dit non, elle n'est pas verte, elle est rouge, la montagne est rouge, mon Dieu. Bon, enfin, c'est l'exemple, attention. La montagne est verte quand même. Si Dieu vient, il vous dira qu'elle est verte. Ça, c'est, moi, les feuilles sont vertes, oui. Voilà, je suis plus certain de ce que Dieu m'a dit, de ce que Dieu me dit, de ce qu'il y a dans la Bible, de ce que m'enseigne l'Église, oui, etc., bon, qui est la messagère de Dieu, que de ce que je vois, de ce que je constate, de ce que je sens. Et parfois, mes sens peuvent me tromper. Mon intelligence peut me tromper. Parfois, je fais des beaux raisonnements qui aboutissent à des conclusions qui sont fausses. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, je suis très intelligent, mais je déraille complètement. Et vous avez tout un tas de gens très intelligents, paraît-il, mais qui déraille complètement et qui essaie de nous expliquer que le monde a existé à partir d'un Big Bang, de Beach Boy, des trucs comme ça. Ils sont peut-être très intelligents, mais ils se gourrent complètement. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ouais. Et la bonne petite vieille, qui connaît bien son catéchisme, qui dit « Bon, non, le monde a été créé par Dieu », elle en sait mille fois plus que tous ces messieurs très intelligents. Parce qu'elle a la foi. Elle lui suffit. Et elle ira au ciel, alors que ces messieurs très intelligents iront peut-être au ciel. Mais c'est pas avec leur théorie, en tout cas, qu'ils iront au ciel. C'est peut-être avec autre chose. Ouais. Faire attention à cela, vous voyez, parce que, à notre époque, je crois que surtout à notre époque, un peu où tout le monde est un petit peu déboussolé, que nous sommes tous un petit peu perdus avec cette crise dans l'Église, on aurait tendance parfois à vouloir se raccrocher à tout un tas de choses, ouais, tout un tas mais qui n'appartiennent pas au domaine de la foi. Ce à quoi il faut nous raccrocher, c'est à la foi et à rien d'autre. la parole de l'Église, la parole éternelle de l'Église, bien sûr, la parole de Dieu, voilà ce qui nous sauve. C'est la seule chose importante, la seule chose importante. Et l'abbé Pugat l'expliquait ce matin, de façon très bien, dans son serment, quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu n'a qu'une parole. Et quelle est cette parole? C'est Jésus-Christ. Voilà. Et oui, Dieu n'a qu'une parole. Dans son éternité, Dieu ne dit qu'une chose, Dieu ne dit qu'un mot, c'est son Fils. Il engendre son Fils. Voilà. Il engendre éternellement son Fils. Et son Fils, c'est Jésus-Christ. Et bien voilà. C'est pourquoi, et bien en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Voilà. Toute notre foi, toute la foi chrétienne, et c'est pourquoi elle est chrétienne, toute notre foi, eh bien, elle se concentre sur Jésus-Christ, elle se concentre en Jésus-Christ. Et pour nous, la foi, eh bien, se ramène à une adhésion au mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et c'est un mystère, notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Adhésion de l'intelligence, bien sûr. Hein. La foi est une vertu qui s'enracine dans l'intelligence et qui fait adhérer mon intelligence, eh bien, à tout ce que Dieu a dit. Or, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu a dit tout ce qu'il est. Il a dit tout ce qu'il est. Tout. Tout est en Jésus-Christ. Tout. La bonté de Dieu, sa miséricorde, sa justice, tout, tout ce que vous voudrez, tout est là, contenu dans le mystère de Jésus-Christ. Et nous n'en saurons jamais plus. Non, je suis en train de partir sur une phrase qui est tordue, là. Donc je reviens, j'efface tout. Et bon, enfin voilà, quoi. Savoir Jésus-Christ, mais ça suffit, tout simplement. Vous avez une phrase comme ça, hein. Petite citation que donne Saint-Louis-Marie Grignan de Montfort. Celui qui sait Jésus-Christ, quand bien même il ne saurait rien d'autre, en sait suffisamment. Mais celui qui ne sait pas Jésus-Christ, quand bien même il saurait tout le reste, il ne sait rien. Nil shit. Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît rien. Ça lui sert à rien. Il peut avoir tout ce qu'il veut, tout ça, il ne connaît rien. Jésus-Christ, voilà. Quand le mystère de Jésus-Christ est au cœur de la révélation, au cœur de la Bible, au cœur de l'Évangile. Épître de Saint Paul, hein, c'est pourquoi j'ai jugé que je ne devais rien savoir d'autre parmi vous que Jésus et Jésus crucifié. Voilà, c'est tout. Toute notre foi est là. Et cette foi, donc, est un don de Dieu. Hein, ça, c'est clair. Hein, cette foi, même cette adhésion à Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. Qui nous est donné directement ou qui nous est donné par par la médiation, l'intermédiaire de l'Église, par le baptême, etc. Dieu nous le donne. Et ça, c'est quelque chose de bien sûr, ça peut paraître un petit peu à des yeux trop humains comme une injustice. Et voilà, un petit enfant qui n'a rien demandé, il a 2 jours, 3 jours, il est amené sur les fonts baptismaux, il est baptisé et Dieu lui donne la foi. Eh oui, et grâce à ses parents, bien sûr, et puis un autre enfant qui, lui, bien né dans un pays musulman ou je ne sais où, eh bien, Dieu ne lui donnera peut-être pas la foi, je ne sais pas, ça c'est le mystère de Dieu. Peut-être qu'il la lui donnera-t-il, mais peut-être pas, on ne sait pas. Oui. Et oui, Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, et Dieu donne sa grâce à qui il veut donner sa grâce. Il en fait ce qu'il veut. La grâce, c'est sa vie, il la donne à qui il veut, quand même, ça me paraît tout à fait normal, hein. Donc, la foi est un don de Dieu, ça c'est clair, mais l'acte de foi, c'est un don, ça c'est un acte de ma personne. Ouais. La foi m'est donnée par Dieu, mais ensuite poser des actes de foi, alors ça c'est moi, ça ce n'est plus le bon Dieu. Ouais. Dieu m'a donné la foi, j'ai dans mon âme la vertu de foi, et bien maintenant c'est à moi d'agir avec ça, c'est à moi d'utiliser cette foi, ce don que Dieu m'a fait. Et tous ces actes de foi, eh bien ce sont des actes que je dois vouloir moi-même, que je dois poser moi-même. C'est pas Dieu qui va les poser lui-même. Hein. Il m'a donné de quoi vivre de foi, mais maintenant c'est à moi. C'est à moi à vivre de foi, c'est à moi à dire je crois. Et c'est à moi à dire, eh bien je fais telle et telle chose parce que je crois, parce que Jésus-Christ est au centre de ma vie. Ouais. Alors vous voyez, il est certain que s'il n'y a pas cette vertu de foi à la base, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse pour le salut? Ouais, si je ne crois pas en Dieu, si je ne crois pas en Jésus-Christ, si je ne crois pas que Dieu est mon Père, pourquoi voulez-vous que je me mette à pratiquer la vertu, que je me mette à me mortifier, à me renoncer à ceci, à cela? Pourquoi? Aucune raison. Je pourrais le faire peut-être pour des motifs naturels, mais quelle valeur pour le salut, cela? Rien. Les vertus des païens sont des vertus, demeurent des vertus, bien sûr, mais elles ne donnent absolument pas droit à la grâce et au salut. Oui. La vertu des païens ne leur donne pas un droit sur Dieu. Dieu pourra leur donner sa grâce s'il le veut, s'il l'a choisi, mais Dieu n'est pas du tout obligé de la leur donner. Oui. Ah, c'est un mystère, hein, ça. Nous revenons toujours un petit peu autour des mêmes questions, un mystère de la gratuité, mystère de la liberté de Dieu. Oui. Dieu fait de ses dons ce qu'il veut en faire. Oui. La foi, donc, c'est elle qui ouvre un petit peu la route, hein, c'est un petit peu, si on peut dire, le bulldozer, hein, c'est elle qui perce la carapace, hein, de notre âme, hein, pour la rendre capable, eh bien, justement, de monter, hein, d'accéder à Dieu. Hein. Et à quoi devons-nous adhérer par la foi? Oui, cette foi qui nous est donnée par Dieu pour adhérer à Dieu lui-même. Bon. Mais à quoi devons-nous adhérer? Bien sûr, à Dieu lui-même dans sa révélation, ses mystères, ce que Dieu nous a dit. Ah, ça, c'est la foi, disons, un petit peu spéculative. Ouais, c'est le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Bon, voilà. Nous devons croire dans ces vérités, hein, qui ont été révélées par Dieu, ces vérités qui ont été définies par l'Église. Tout ce que l'on peut appeler les dogmes, ouais, donc la foi dogmatique, si vous voulez. Alors, bien sûr, cela est nécessaire, cette foi dogmatique. Mais il y a une autre foi, je crois, à laquelle il faut essayer de donner à notre foi une autre dimension plus intérieure, justement, je crois, pour véritablement être capable d'en vivre. Car malheureusement, nous pouvons très bien avoir la foi et ne pas en vivre. J'ai la foi, je crois que Dieu existe, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église, je crois tout ça, je crois, et tout ça, je crois, voilà. Mon catéchisme est dans ma bibliothèque, c'est très bien, c'est bien, c'est vrai ce qu'il y a dedans. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, hein, bon, voilà. Mais le catéchisme reste dans la bibliothèque. Et puis après, je vais au boulot, etc., et puis et je mène ma petite vie, et le soir, ah, le catéchisme, oh, bien le catéchisme, oh, ça c'est bien, ça, oui, c'est, oh, j'y crois, hein, j'y crois. Bon. Alors ça, c'est peut-être, mais ça serait avoir encore. Ça, c'est peut-être avoir la foi, mais encore, hein. Parce que si vraiment j'ai la foi, si vraiment j'y crois à ça, en principe, je devrais en emporter un petit bout avec moi dans la journée, normalement. Oui. Et donc, il s'agit de vivre de foi. Il ne s'agit pas d'avoir cette foi simplement spéculative. Vivre de foi, et là, je crois, et je reviens toujours un petit peu, c'est une idée un peu fixe, mais enfin, tant pis. Croire en la présence de Dieu en nous. Cette chose dont nous avons parlé justement depuis presque le début, croire en la vie de la grâce, croire en la présence de la Sainte Trinité dans mon âme, croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent au sein de mon âme et qu'ils sont plus, je dirais, plus présents à moi-même que moi-même je ne le suis, qu'ils me connaissent infiniment mieux que moi, ouais. Et qui sont, je dirais, qui sont beaucoup plus importants en moi que moi-même. Ouais. Croire. Hey, est-ce que nous y croyons à cela? Est-ce que nous y croyons? Mais d'une foi certaine et d'une foi justement vivante, d'une foi agissante. Ouais. Ah, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je les emmène avec moi partout où je vais. Quand je monte au volant de ma voiture, la Sainte Trinité est au volant de ma voiture. Mais c'est vrai que sous les. C'est clair ça. Alors. Si on avait vraiment cette vision des choses, ça transformerait tout notre univers, toute notre vie. Je vais à droite, je vais à gauche, c'est la Sainte Trinité qui m'emporte à droite et qui m'emporte à gauche. C'est pas moi qui y vais, bon, c'est moi qui y vais, bien sûr, mais la Sainte Trinité me porte à droite, me porte à gauche, me porte vers telle personne. Et lorsque je parle à telle personne, ben voici que la Sainte Trinité qui est présente en moi, qui a envie de lui dire quelque chose à cette personne. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Bon, alors, hein, moi je me tais et puis je laisse parler la Sainte Trinité. Voilà la Sainte Trinité qui est présente en moi. Et qu'est-ce qu'elle a envie de faire quand je suis face à quelqu'un? Elle a envie de l'aimer. Et oui, puisque Dieu est amour. Dieu m'aime, bien sûr, il est présent dans mon âme pour m'aimer, pour me sanctifier. C'est bien vrai, mais pas seulement pour ça. Dieu est présent en moi aussi pour aimer les autres. Et lorsqu'il m'envoie rencontrer quelqu'un, lorsque Dieu me met en contact avec quelqu'un, eh bien c'est parce que Dieu a envie d'aimer cette personne. Dieu veut la rencontrer, Dieu veut lui dire quelque chose, il veut la toucher un petit peu au cœur. Eh bien, dis donc, ah oui. Si j'étais conscient un petit peu de tout cela, oui, si ma foi c'était cela, mais je crois que ça pourrait transformer pas mal nos rapports entre nous, justement. Hein. Ne pas faire obstacle, hein. Faire attention, justement, ne jamais faire obstacle entre l'amour de Dieu qui est en moi, cet amour qui veut sortir de moi pour aller vers cette personne. C'est pas mon amour à moi. C'est pas parce que je l'aime bien, cette personne. Ça n'est pas parce qu'elle m'est sympathique ou je ne sais quoi, non. Mais Dieu veut l'aimer. Est-ce que moi, j'ai le droit d'empêcher Dieu d'aimer cette personne? Voilà la raison de l'amour du prochain. Oui. L'amour du prochain, l'amour que je dois avoir pour le prochain, c'est cela. C'est permettre à Dieu d'aimer le prochain. Puisque l'amour de Dieu est en moi, la charité de Dieu est en moi, et bien permettre à cet amour de diffuser, non pas seulement dans mon âme, mais également de déborder un peu sur les âmes de nos prochains, de ceux que nous rencontrons. C'est extraordinaire, cela. Voilà, je crois, un petit peu cette dimension qu'il faut essayer de donner à notre foi. Et pas seulement une foi un petit peu cérébrale, oui, un petit peu intellectuelle, oui, bon, connaître le contenu de la foi, être très intelligent, très savant en théologie, etc., venir à toutes les conférences doctrinales, etc. Bon, c'est très bien tout ça, je vous félicite, je vous encourage à continuer. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Ben non, je suis désolé, mais ce n'est pas parce que vous venez à toutes les conférences que vous irez au ciel. Hein. Attention, ça peut peut-être vous aider, j'espère. C'est un petit peu pour ça qu'on les fait. Mais ça ne suffira pas. Encore faut-il qu'ensuite tout ça, eh bien, pénètre un petit peu, macère au fond de votre âme et vous aide un petit peu peut-être à transformer quelques petites choses hein, pour être plus chrétien et vivre davantage de foi. Alors, il est certain que la foi, hein, ça c'est. Bon, le terme de la foi, c'est Dieu, bien sûr, c'est toujours Dieu. C'est Dieu dans sa parole, c'est Dieu dans sa révélation, c'est Dieu dans son Église, mais c'est également Dieu en moi. Dieu au fond de mon âme et tous les mystères de Dieu qui sont cachés en moi. C'est extraordinaire cela, vous savez. Toutes ces profondeurs de Dieu, hein, dont l'épître de ce matin nous disait justement hein, combien ces abîmes sont insondables. Ben oui, c'est insondable. Oui. Et c'est le mystère de Dieu. Et il ne faut pas nous effrayer, il est certain que la foi comporte bien sûr une certitude. Hein. La foi est certaine. Hein. Et c'est pourquoi il faut bien prendre garde de bien assir, pardon, bien asseoir, bon, de bien asseoir notre vie sur la foi. Parce que c'est ce qu'il y a de plus solide. La foi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus solide que la parole de Dieu? Tant que je suis assis sur la parole de Dieu, c'est du roc, cela. Personne ne peut rien contre Dieu. Et tant que je suis enraciné en Dieu, personne ne peut rien contre moi. C'est sûr, ça. Mais je pourrais... Enfin, une réflexion, par exemple, qu'une fois que nous faisait Monseigneur ici, et bon, il avait été question de certains phénomènes un peu extraordinaires qui s'étaient passés autour de sa personne. Et il nous disait, mais surtout, n'en parlez pas de cela. N'en parlez pas. Il ne faut pas parler de tout. Si ça existe, vraiment, il y a des phénomènes un petit peu extraordinaires, des phénomènes un peu merveilleux. Il ne faut pas en parler. Parce que notre combat, c'est celui de la foi. Et ça, c'est solide. La foi, c'est solide. Alors que tout ce qui est du, je dirais, des choses un petit peu merveilleuses, etc., attention, ça, c'est du ça. Ça peut agir un peu trop sur les sentiments, vous voyez. Or, notre combat n'est pas un combat, justement, fondé sur des raisons de sentiments, etc. Non, c'est sur la foi. Alors, c'est plus obscur, c'est plus dur, bien sûr, c'est la ténèbre. Ça râpe un petit peu tout cela. Mais au moins, c'est solide, ça. Alors que si nous cherchons un peu trop, justement, une foi un peu trop sentimentale, avec des émotions, des choses, des trucs, des phénomènes merveilleux, miraculeux, tout ça, c'est pas défendu, attention, hein, ça peut exister, il s'agit pas de refuser ce genre de choses, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut asseoir sa vie. Bon, ça peut aider, bien sûr, ça peut aider, mais sur quoi je repose ma vie chrétienne, sur quoi je repose ma vie? Sur la foi, la vertu de foi, ça c'est solide, ça ne branche pas. Et même s'il n'y a pas de phénomène merveilleux, même s'il n'y a pas de phénomène miraculeux, d'émotion, eh bien la foi me suffit. Ça suffit. C'est la foi qui mène les gens au ciel. Hein. Et la foi. Oui. Bon, un petit témoignage, si vous voulez, de Monseigneur. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que son combat est un combat pour la foi. La prédication de Monseigneur n'a jamais été rien d'autre qu'une prédication pour la foi. Prédication de la foi et prédication pour la foi, pour appeler les âmes à vivre de foi, prêcher la foi. Et s'y combattaient parfois Rome et le Vatican, etc., c'était parce qu'ils n'enseignent plus la foi, uniquement pour ça. C'est pas pour d'autres raisons. Le reste, ça l'intéresse pas, mais que Rome prêche la foi. Alors, à ce moment-là, tout ira bien. À ce moment-là, la réconciliation sera tout à fait possible. Pas de problème. Et tant que Rome prêchera l'erreur et de dâneries plus grosses qu'eux, on ne peut pas discuter avec eux. On ne peut que leur taper dessus. Et moi, je suis désolé. Enfin, leur taper dessus verbalement, bien sûr, comme ça. Hein. Dans un dialogue fraternel, mais quand même solide. Quoi. Voilà. Et oui, la foi. Et cette foi, c'est toute notre certitude. Hein. Mais encore une fois, hein, cette foi doit être agissante. Agissante, hein, ne doit pas se contenter d'être justement une sorte de contemplation intellectuelle. Cette foi doit nous pousser à agir. Hein. Alors c'est là, bien sûr, l'imperfection de la vertu de foi. Vous voyez, sa force, sa perfection, eh bien c'est sa solidité, sa fermeté, parce que elle est adhésion à la parole de Dieu, donc ça ne s'abranche pas, mais son imperfection, ben c'est cette obscurité, nous ne voyons pas, ben c'est sûr. Je crois que Dieu est Trinité, je le crois, mais je ne le vois pas, et je ne comprends pas très bien même. J'essaie de comprendre, bien sûr, mais c'est un peu trop simple pour moi. Moi, je suis un peu trop compliqué pour elle. Hein. Donc, une certaine ténèbre, une certaine obscurité dans la foi, hein, c'est sûr. Hein. Et cette ténèbre, cette obscurité de la foi, eh bien, ne cessera qu'au jour où la foi disparaîtra. Et quel jour la foi disparaîtra-t-elle? Eh bien, le jour où nous rentrerons dans la vision. Hein, la vision, le jour où nous verrons Dieu. Alors, c'est fini. Ce jour-là, nous ne croirons plus. Au paradis, on n'a plus la foi. Les saints, les élus, les anges n'ont plus la foi. C'est fini, ça, c'est terminé. Puisqu'ils voient Dieu. Oui. On croit ce qu'on ne voit pas. Ben ça me paraît à peu près évident. Moi, je crois que l'Amérique existe, mais je ne l'ai jamais vue. Alors, ben, je crois qu'elle existe parce qu'on me le dit, parce que c'est marqué sur les atlas, là, il est marqué Amérique. Bon, je fais confiance aux atlas, j'espère qu'ils ne racontent pas l'histoire. Je crois, mais je ne l'ai jamais vue. Bon, voilà. Mais le jour où j'irai en Amérique, si j'y vais un jour, j'en sais rien, ah ben, ce jour-là, je ne croirai plus que l'Amérique existe. Je saurai qu'elle existe, je la verrai, je la toucherai. Eh bien là, c'est pareil. La foi, nous l'avons ici-bas, bien sûr. Puis le jour où nous entrerons dans l'éternité, eh bien, nous perdrons la foi. Eh oui, nous perdrons la foi. Mais elle sera remplacée par quelque chose de beaucoup plus beau. Elle sera la vision, face à face. Et nous verrons Dieu tel qu'il est. Ce sera bien. On n'aura plus besoin de se casser la tête pour comprendre comment ça marche dans la Sainte Trinité. Là, on verra la Sainte Trinité. Il restera sans doute encore un petit peu de mystère, quand même. Enfin, ça se passera bien quand même. Et la foi, voilà, cette foi qui doit être vraiment forte, puissante, hein, c'est la vertu qui est essentielle, hein, ça, c'est... Il n'y a pas de vertu plus importante ici-bas. Hein. Alors, c'est cette foi qui doit ensuite, eh bien, engendrer, normalement, justement, si elle est droite, si elle est saine, si elle est sainte, et si elle est vivante, ouais, vivante par la grâce, justement, vivante par la charité, eh bien, c'est cette foi, justement, qui fait naître en moi, qui est tout naturellement, presque, l'espérance, cette espérance, et c'est sûr, si je crois en Dieu, si je crois dans la parole de Dieu, mais si je crois dans ses promesses, mais je vais me mettre à espérer, mais c'est sûr, ça. Enfin, puisque Dieu m'a promis de me récompenser, Dieu m'a dit, voilà, bienheureux vous qui pleurez, bienheureux vous qui ceci, bienheureux, hein, réjouissez-vous, votre récompense est grande dans le ciel. Oh, ben alors, ben, si Dieu l'a promis, et si j'ai la foi dans la parole de Dieu, eh bien, je vais espérer, justement, obtenir le fruit de ses promesses. Oui. Dieu l'a promis. Dieu ne peut pas mentir, quand même. Dieu ne fait pas des promesses qu'il ne peut pas tenir ou qu'il ne veut pas tenir. Oui. Voilà, l'espérance. Oui. Et l'espérance, hein, nous le disions, est une vertu un petit peu entre deux, voyez, un petit peu vertu fragile, quand même, car elle est mêlée d'une certitude, bien sûr. Hein. L'espérance que j'ai, elle est certaine. Parce qu'elle est assise, elle est enracinée justement dans la lumière de la foi. Je crois. Donc cette foi, la solidité de ma foi, donne sa certitude, sa solidité à mon espérance. Voyez. Donc je sais, Je sais que Dieu veut le salut de tous les hommes. C'est dans l'Écriture. C'est dans l'Écriture, dans l'Épître à Timothée. Ouais. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, à sa connaissance. Bon, voilà, ça je le sais. Donc, j'espère. J'espère. Ouais. Et de ça, je suis sûr, parce que c'est Dieu l'a dit. Très bien. Dieu veut mon salut. Ouh. Bien. Donc, là, de ce côté, une certitude, une fermeté. Mais, une incertitude quand même. Une inquiétude dans l'espérance. Et de quel côté? Et c'est de mon côté à moi. Et parce que moi, comme vous le savez, je suis un pauvre type. Hein. Nous sommes tous des pauvres types. Hein. Nous sommes tous des cloches. Bon, voilà. Et de ce côté-là, il est sûr qu'il y a une certaine incertitude. Incertitude du côté de moi-même. Vous voyez, du côté de cet aspect personnel hein, qu'il y a dans l'espérance, c'est mon salut, ma fidélité à la grâce. Est-ce que je serai fidèle à la grâce? Avec la grâce de Dieu, oui, mais je suis capable de faire tout un tas de bêtises et de boulettes, moi, ça. Ouais. Alors, croire que Dieu veut le salut de tous les hommes, oui, mais est-ce que je suis sûr que Dieu veut mon salut? Oui, je sais que Dieu veut mon salut, mais est-ce que je suis sûr, moi, eh bien, de me sauver, et non, j'en suis pas sûr, hélas. Et personne ne peut en être sûr. Hein. Parce que tout homme peut défaillir, malheureusement. Alors, vous voyez, de ce côté-là, l'espérance a quand même une certaine incertitude. Ouais. Cette défiance de moi-même, cette ma faiblesse. Alors qu'il faut bien sûr compenser, car il ne s'agit pas non plus de tomber. Ah, oui, tiens, je suis un pauvre type, donc, je suis fichu. Non, puisque Dieu l'a promis. Non. Et donc, eh bien, cette défiance de moi-même doit, normalement, si elle est sainte, si je m'en touche là, est vécue dans la lumière de la foi, me pousser à faire davantage encore confiance à Dieu. Eh oui, plus j'ai peur de moi-même, eh bien, plus je dois faire confiance à Dieu. Et plus je me vois faible, incertain, fragile, eh bien, plus je dois me porter, me confier à la grâce et m'abandonner, justement, à la conduite de Dieu. Ouais. Oui, mais tu vois, il est sûr que dans l'espérance, il y a ces deux aspects, là, hein. Côté de certitude et côté d'incertitude. Oui, c'est Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, emploie une belle image, oui, pour nous parler de l'espérance. Chapitre 6, verset 18, 19. C'est pourquoi, voulant montrer avec plus d'évidence, etc., afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe, nous soyons, nous qui avons cherché en lui un refuge, puissamment encouragés à tenir ferme l'espérance qui nous est proposée. Nous la gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, cette espérance, qui pénètre jusqu'au-delà du voile, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous comme précurseur, en qualité de grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez cette image que prend saint Paul, une encre qui est jetée à l'intérieur du voile. Oui, une encre de mon âme, oui, mon âme est comme un navire, oui, qui navigue donc sur les flots du temps. Mais voici que l'encre de cette âme, elle est déjà à l'intérieur du voile. L'intérieur du voile, donc l'intérieur de l'éternité, voilà. Et puis entre donc l'encre de mon âme, vous voyez, ça c'est la vertu d'espérance. Vous voyez, mon âme est déjà accrochée à l'éternité. Et entre les deux, il y a une chaîne. Voilà. Et cette chaîne, eh bien, elle peut se rompre. Vous voyez, elle est accrochée à l'intérieur. Ça y est, je le tiens, c'est bon, je l'aurai, si je peux dire. Vous voyez. Mais attention, il ne faut pas casser la chaîne, quoi. Vous voyez, tu vois, une sorte de combat, vous voyez. Et plus ma foi sera ferme, plus la chaîne sera solide. Ça, c'est sûr, ça. Hein? Car si cette chaîne, si cette ancre est jetée à l'intérieur du voile, qui est-ce qui l'a jetée à l'intérieur du voile? C'est la foi. C'est la foi qui m'a fait balancer, jeter cette ancre à l'intérieur du voile. Oui. Et plus la foi est solide, eh bien, plus la chaîne sera solide et plus l'ancre sera enracinée en Dieu. Oui. Alors là, je pourrais tirer petit à petit, là. Et puis me hisser, hein, petit à petit, comme ça, jour après jour, jusqu'à l'éternité. Mais attention, hein, la chaîne garde quand même sa fragilité. Et cette fragilité, elle vient de moi, je peux lâcher. Ou bien je peux, pourquoi, être distrait, regarder un petit peu ailleurs, et au lieu de monter vers le ciel, bien commencer à batifoler un petit peu vers les choses de la terre. Oui. Oui, l'espérance, hein, c'est vrai que c'est une vertu terrible. Hein. Elle promet tout, mais ne donne rien encore. Elle donne rien encore. Je n'ai pas encore, je ne possède pas encore ce Dieu, voyez. Par la foi, je ne possède pas vraiment Dieu encore, voyez. Je crois qu'il existe. Bon, je le possède d'une certaine façon, mais très imparfaite, voyez, très obscure, très... Bon, voilà. C'est pas encore la jouissance vraiment de Dieu, voyez. Par l'espérance, c'est le désir, voyez. Je m'approche de ce Dieu auquel je crois, voyez. C'est le désir, donc cette confiance, voyez, dans la possibilité un jour, eh bien, de posséder Dieu, de jouir de la présence de Dieu, bon, de jouir de la béatitude, de posséder, de recevoir un jour la récompense que Dieu a promise. Voyez. Et cette vertu, vous voyez, tient sa fragilité, son imperfection, quant à elle, justement, de cette non-possession. Cette non-possession, voyez. Tout est dans le désir, mais je ne possède pas. Je ne possède pas encore. Ouais. Et c'est vrai, ça, nous le disions tout à l'heure, que l'espérance est une vertu très, très fragile. Hein. Il suffit de tellement peu de choses, hein, pour nous déboussoler, ouais, pour nous déboussoler complètement. Il y a tous les pépins, et ça, je ne crois pas qu'il y ait une vie ici-bas qui soit à l'abri des difficultés, des épreuves, des souffrances. Bah, toute vie humaine comporte nécessairement sa part de souffrance, ouais. Et il est sûr que ces souffrances sont une épreuve pour notre espérance. Ouais. Et si Dieu nous permet, justement, si Dieu permet que nous soyons éprouvés comme cela, si Dieu et parfois permet que nous soyons éprouvés de façon très cruelle, de façon, je dirais, parfois qui nous porte presque au bord de la révolte, c'est pas possible, enfin, Dieu est amour, mais qu'est-ce qu'il fabrique alors, quoi. Parfois, on aurait envie de dire ça, on le dit pas, mais enfin, c'est pas possible quand même, quoi. Et pourquoi le bon Dieu permet-il justement que notre espérance soit ainsi éprouvée? Eh bien, justement, pour nous donner l'occasion de renforcer notre vertu d'espérance. Si j'ai la foi, si vraiment j'ai la foi, voyez, lorsque mon espérance est ainsi éprouvée, ainsi compromise par les épreuves, si vraiment j'ai la foi, voyez, si je plonge vraiment en Dieu par un acte de foi, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais renouveler un acte d'espérance. Donc, c'est vrai, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, mais je sais que vous voulez toujours ce bonheur que vous m'avez promis. Alors je ne bouge pas, je continue. Je ne doute pas de vous. Je ne comprends rien, mais je ne veux pas douter. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fais en faisant un acte d'espérance comme celui-ci? Eh bien, en fait, je renforce, vous voyez, je donne encore plus de solidité à cette chaîne, hein, qui me relie au paradis. Ouais, voilà. J'enfonce un peu plus l'encre de l'espérance en Dieu. Et c'est pour cela que Dieu permet ces épreuves. Et Dieu qui nous connaît bien, mesure les épreuves qu'il nous envoie à la qualité de notre foi. Il ne nous donnera jamais une épreuve qui dépasse nos forces. Sinon, Dieu serait un monstre. Oui. Dieu ne donne jamais à quelqu'un une épreuve qu'il ne soit pas capable, avec sa grâce, de surmonter. Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donnera la grâce pour surmonter l'épreuve. Ouais. Voilà, cette grâce, Dieu nous la donne, et s'il permet cette épreuve, justement, c'est pour que la grâce, vous voulez, imprègne un peu plus notre âme, que notre foi se renforce, et que notre espérance également se renforce. Et c'est dans l'épreuve, justement, eh bien, qu'il faut renouveler les actes de foi, les actes d'espérance. Ouais. Vertu difficile, l'espérance, hein, c'est clair, hein, mais tellement, tellement nécessaire ici-bas. Hein. C'est Peggy, vous connaissez Charles Peggy. Je n'oserais pas l'appeler un penseur chrétien, parce qu'il n'était pas très chrétien. Même s'il a écrit des belles choses, attention, hein, il a écrit des belles choses. Il a de très belles choses, justement, sur la vertu d'espérance. Ouais, c'est bon. Je ne sais plus très bien dans quelle œuvre, là, où il fait parler Dieu. Dieu dit, moi, ce qui m'étonne, c'est l'espérance chez les hommes. Que les hommes aient la foi, dit-il, bon, normal, pas trop difficile, j'éclate tellement dans ma création. Bon, que les hommes croient que j'existe, que je sois le créateur, bon, ça va, c'est comme normal, à peu près, quoi. Que les hommes et la charité, oh ben oui, quand même aussi, c'est pas trop difficile quand ils voient un de leurs frères qui souffre, qui est dans la peine, dans la misère quand même. Bon, ça va, c'est à peu près. On arrive à aimer un petit peu quand même, quoi. Mais que les hommes aient l'espérance, alors là, dit-il, voilà ce qui m'étonne. Qu'ils voient comment cela va aujourd'hui et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Et voilà qui est étonnant, dit Dieu. Et c'est vrai, il y a un peu de ça. Hein. Et c'est ça l'espérance. Alors, on est dans le pataquès. Hein. C'est la pagaille partout, en France, en Suisse, partout. Ça, c'est bon, dans l'univers entier, hein, que ce soit le Cresson ou je ne sais pas quoi, tout ça, c'est la pagaille dans tous les coins. Et que nous continuons, on dit, mais demain, ça ira mieux. On dit, mais ils sont fous, ça, c'est pas possible quand même. Mais où sont les signes? Où sont les signes? Les signes, je dirais, visibles, sensibles, d'un progrès, d'une chance de progrès. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Humainement, je m'entends, il n'y en a pas. Et notre espérance, humainement, notre certitude, car nous sommes certains qu'un jour, nous les aurons, comme disait Monseigneur ici, le dernier jour, nous les aurons, ça c'est clair, c'est sûr, c'est dans l'Évangile. Notre certitude, elle n'est pas humaine, elle est surhumaine, elle est surnaturelle, c'est l'espérance. Et oui, nous savons que Dieu vaincra. Nous le savons, ça c'est sûr. Tout nous dit au contraire que tout est fichu, que c'est le démon qui est en train de gagner. Mais c'est pas vrai, c'est pas le démon qui est en train de gagner. Il s'agite, il met la pagaille, il fait tout ce qu'il veut. Mais le bon Dieu l'aura, et la Sainte Vierge l'aura. Ipsa te conteret. C'est dans la Bible. Elle t'écrasera la tête. Et il le sait. C'est pour ça qu'il s'agite. Mais on l'aura quand même. Voilà l'espérance, que vous voulez. Bon, alors en attendant, il nous donne des coups de queue, il nous tape dessus, ça fait mal. Mais on l'aura quand même. Ce qu'il faut, c'est tenir. Voilà, tenir bon et tout, la foi. La foi. La fermeté, notre solidité dans le combat et dans l'épreuve, c'est la foi. Et l'espérance, hein, ça c'est sûr, ça. Je dirais, nous sommes tous un petit peu... Tous, je crois, hein, qui que nous soyons, il ne faut pas croire que qui que ce soit à l'abri. Tous, je crois, notre vertu d'espérance, et je crois peut-être plus, justement, que notre vertu de foi est, justement, soumise parfois à rude épreuve, hein, très rude épreuve. Hein. Et il y a deux péchés contre l'espérance, dit saint Thomas d'Aquin. Nous n'avons pas eu les péchés contre la foi, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Hein. Mais, bon, on pourra en parler, mais c'est pas le plus intéressant. Il vaut mieux renforcer sa foi que de voir ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça, c'est, bon, l'infidélité, tout ça, c'est sûr, c'est pas pour nous, ça, bon. Mais les péchés contre l'espérance, il y a deux péchés contre l'espérance. Hein. Il y a la présomption et le désespoir, dit-il. La présomption, c'est trop espérer. Si on peut dire, hein, d'une certaine façon, trop espérer, bien qu'en principe, on ne puisse pas trop espérer en Dieu, mais disons, c'est un défaut dans l'espérance. L'espérance n'est pas très équilibrée. Quoi, hein. Trop espérer, la présomption, Dieu est amour, Dieu aime tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors ma foi, allez, on rigole bien, on boit bien, on s'amuse, on fait l'idiot, tout ça, et puis à la fin, je ferai un petit acte de contrition et tout ira bien. C'est pas sûr, hein. D'abord, il n'est pas sûr qu'on ait le temps de faire un acte de contrition, pas du tout évident. Et puis, il n'est pas sûr que ça suffise au bon Dieu non plus. Ça, parfois, le bon Dieu était un peu plus exigeant qu'un petit acte de contrition du bout des lèvres. Hein. Il veut autre chose. Ça, la présomption, voilà. Ou bien, on présume de ses forces. Ouais. Il dit, moi, je m'en sortirai, pas de problème. Bon. Attention, hein, que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Oh, mais moi, je vais à l'école, je vais à la messe tous les jours, je sais quoi, t'as... Oui, bon, c'est bien, très bien, continuez, bravo, mais est-ce que ça suffit? Pas sûr, hein? Bon, voilà, présomption, donc, un petit peu d'orgueil, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on se repose un peu trop, justement, dans la bonté de Dieu. Voilà, puisque Dieu nous a promis le salut, quand même, enfin, il faut savoir ce qu'il veut, hein? Alors, allons-y, mais attention, hein? Et puis, l'autre péché, c'est le péché de désespoir, alors là, c'est l'inverse, hein? L'inverse, là, c'est le... Je crois que nous sommes plus ou moins tentés, parfois, à certains jours de notre vie, peut-être, par l'un ou par l'autre. Le désespoir, le découragement, la lassitude, c'est pas possible, jamais je vais y arriver. Trop moche, enfin. Tout le temps les mêmes péchés. J'ai 95 ans, et ça fait 95 ans que je confesse les mêmes péchés. Je sais pas, jamais je m'en sortirai. J'ai beau faire, je me débat, je fais des efforts, et puis, paf, à la première occasion, pif, comme un igot, je me fais avoir et je retombe. Mais c'est pas possible, le bon Dieu ne peut pas me pardonner ça. Enfin, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Enfin, quand même, Dieu est bon, mais il n'est pas fou quand même, quoi. Et oh, oh. Oui, bon, et tout ce que, il y a toutes les formes par lesquelles peut se venir le découragement, le désespoir, un petit peu, vous voyez. Et ça aussi, ça peut nous guetter tous, hein, une sorte peut-être pas le désespoir complet, c'est grave, ça, bien sûr, mais découragement, quand même. Ouais. Ne plus croire, finalement, en l'amour de Dieu. Hein, voir que les choses vont tellement mal qu'on en finit par dire, c'est vrai que Dieu est amour, oui, mais pas pour moi. Ouais. Il aime les autres, peut-être, mais pas moi. Non, pas possible, mais enfin, si Dieu m'aimait, quand même, il me traiterait autrement, quoi. Ça existe, hein. Ça existe. Un exemple, hein, quelqu'un que j'ai rencontré, que vous connaissez peut-être, hein, qui est, je crois, un petit peu dans cet état-là, c'est Gustave Thibon. Gustave Thibon n'a pas l'espérance. A-t-il la foi ? Enfin, ça serait à voir encore. Bon, enfin, c'est pas évident. Hein. En tout cas, il n'a pas l'espérance. Hein. Gustave Thibon ne pratique pas. Hein. Gustave Thibon, que l'on présente comme un penseur chrétien, etc., ne pratique pas. Et en tout cas, s'il a la foi, ce dont je doute d'ailleurs, il n'a certainement pas l'espérance. Hein. Et ça, moi, je l'ai entendu le dire lui-même, mais tout ça, c'est pas pour moi. Ça. Toutes ces belles paroles, toutes ces conférences que je fais aux autres, c'était. Parfois, il dit des très belles choses, hein, c'est vrai ça. Mais il n'y croit pas pour lui, pas pour moi. Ça fait froid dans le dos. Hein. Voilà, il n'a pas l'espérance. Ouais. Il vit, peut-être sans le savoir, dans le désespoir, ouais, d'une certaine façon. Bon, voilà. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, donc, examinait un petit peu ces deux péchés, qui tous les deux, dans leur forme aiguë, sont des péchés graves, bien sûr. Hein, le péché de présomption et le péché de désespoir sont des péchés graves. Et il se demande quel est le plus grave des deux. Quel est le plus grave des deux ? La présomption ou le désespoir, hein, d'après vous ? Eh oui, c'est le désespoir. Ouais. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le désespoir, je dirais, il va contre la nature même de Dieu. Ouais. Il est vrai que Dieu est charité. Je dirais, à la limite, trop croire en la charité de Dieu, trop compter sur la charité de Dieu, c'est une faute quand même, hein, et c'est ne rien faire soi-même. Mais c'est quand même, je dirais, aller un petit peu dans le sens de Dieu. Ouais. Dieu est charité, c'est vrai, Dieu nous aime. Ouais. Alors que le désespoir, ouais, c'est douter. C'est refuser la qualité, la vertu, la note presque essentielle à Dieu, puisque Dieu est charité. Lorsque je désespère, eh bien je ne crois plus que Dieu soit charité. Donc c'est plus contraire à la nature de Dieu. Donc le désespoir est un péché plus grave que la présomption. Ouais. Et puis je dirais à la limite, quelqu'un qui est présomptueux, deux, trois coups de bâton sur la tête, ça peut parfois le ramener à une juste notion des choses. Alors que celui qui est désespéré, comment, qui est vraiment désespéré, comment peut-on le ramener à la surface ? C'est pas tellement le style du bon Dieu de donner des sucettes et des choses comme ça. Il le fait, bien sûr, mais parfois même ça suffit pas. Quelqu'un qui est désespéré, vous pouvez lui donner des douceurs, des faveurs, et ça peut très bien ne pas lui suffire. Il dit, oui, mais tout ça, c'est... Oui, bon, mais ça va bien, ça c'est pour un temps, mais vous allez voir, dans 6 mois, ça va recommencer. Genre. Il n'y croit même plus à tout ça, oui. C'est terrible, hein. Le désespéré, le vrai désespéré, il ferme la porte au bon Dieu. Quoi, hein. Le bon Dieu ne peut plus passer, ne peut plus venir à son aide. Ouais. Terrible ça, hein. Terrible. Ça existe malheureusement. Hein. Et puis enfin, il faut quand même y arriver, mais enfin ça c'est... La dernière vertu qui est la plus grande, la plus belle bien sûr, mais c'est peut-être celle sur laquelle il est plus difficile de parler... Eh bien, c'est la charité, bien sûr. Hein. Mais la charité, eh bien, c'est Dieu lui-même. Alors, là, c'est l'infini, puisque Dieu est charité. Et la charité, en tant que vertu théologale, donc vertu de nous-mêmes, vous voyez, eh bien, c'est cette vertu par laquelle eh bien, nous vivons justement dans l'amitié avec Dieu, dans la familiarité avec Dieu. C'est la vertu qui nous fait vivre justement cette vie de famille avec Dieu. C'est elle, cette vertu, qui nous introduit en Dieu lui-même. Vous voyez, la foi nous a mis en route, l'espérance nous a guidés un petit peu en route, vous voyez, là, sur le chemin, et la charité, eh bien, elle arrive au terme. Voilà, la charité, elle nous introduit dans le cœur de Dieu, dans le silence de Dieu, dans le secret de Dieu. Et c'est la charité qui nous fait jouir, eh bien, de tous les mystères de Dieu, de toutes les beautés, les bontés de Dieu. Voyez. C'est la vertu de la béatitude, la charité. Et quelqu'un qui vit ici-bas dans la charité vit déjà dans la paix. Vit déjà dans la paix. Oui. Et comment se pratique ici-bas la charité, eh bien, c'est par l'union de notre volonté à la volonté de Dieu. Oui. Puisque j'aime, la charité, c'est donc l'amour. Oui. C'est une vertu qui est enracinée dans la volonté, et la volonté étant la faculté de l'amour. Hein. Aimer, c'est vouloir. Aimer, c'est vouloir le bien. Et cela, l'amour. Hein. Et la charité, c'est vouloir le bien. Vouloir le bien, donc vouloir Dieu, puisque Dieu est le bien suprême. Vouloir mon bien, vouloir le bien des autres. Lorsque j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je veux? Je veux son bien. Et ça, l'amour pur, l'amour saint, l'amour de charité, c'est vouloir le bien de l'autre, indépendamment de ce que moi j'en reçois. Là, ça n'a rien à voir dans là-dedans, la charité. Ouais. J'aime quelqu'un pour lui faire du bien, même s'il me donne des coups de bâton sur la tête. Naturellement, je n'aime pas du tout M. Mitterrand. Et surnaturellement, j'essaie d'avoir de la charité pour lui, de vouloir son bien. Et si un jour je le rencontre, j'essaierai de ne pas lui taper dessus et de lui dire, Monsieur le Président, rappelez-vous, vous avez été baptisé quand même. Vous connaissez la Sainte Trinité, vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez le crucifié, etc. J'essaierai. On verra bien ce que ça donnera, parce que je veux son bien. Je ne veux pas qu'il aille en enfer quand même, pauvre homme. Ce serait dommage quand même. Ce serait beau si Mitterrand allait au ciel quand même. Ce serait formidable, ce serait une belle conversion. Ben oui, et c'est ça la charité. Indépendamment de ce que sont les êtres, ouais, de leurs défauts, de leurs vertus, de leur sympathie, de leur antipathie, cela ne compte pas. Je les aime parce que Dieu les aime. Et oui, Dieu les aime. C'est peut-être une drôle d'idée, mais c'est comme ça. Dieu les aime. Il connaît, Dieu aime Madame Cresson. Et Dieu veut certainement, moi j'en suis sûr, ça veut la conversion de Madame Cresson. Il la veut à double titre, pour son salut à elle et pour le salut de notre pauvre pays. Et si demain Madame Cresson se convertit, vous vous rendez compte le bien qu'elle peut faire en France. Extraordinaire. Bon, elle sera peut-être mise à la porte à ce moment-là, mais enfin ça c'est un autre problème. Bon, voilà, c'est cela la charité. Oui. Si vous revenez un petit peu à ce que nous disions au début, voilà ce Dieu charité qui vit en moi, et qui a envie de se répandre, de se diffuser un petit peu dans les âmes de ceux que je rencontre. Voilà. Et c'est pour ça que je les aime. Aimer mon prochain, eh bien, c'est permettre à Dieu de l'aimer, sans y mettre l'obstacle de ma mauvaise nature. Car si je ne l'aime pas, mon prochain, c'est parce que ma nature est mauvaise. Il a peut-être des défauts aussi, il a peut-être une mauvaise nature, ça c'est possible, mais ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, eh bien, c'est de rectifier ma propre nature. Voilà. Et donc d'enlever dans ma nature les obstacles qui peuvent empêcher Dieu d'aimer mon prochain. Et donc vivre justement eh bien, dans cette familiarité avec Dieu. Ouais. C'est bien sûr, la charité, c'est la vertu de la perfection, c'est la vertu des parfaits. Quand vraiment on a la charité, quand on vit de charité, eh bien, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Ici-bas, nous ne pouvons pas faire plus. Et dans l'éternité, toute notre vie sera une vie de charité. Dieu est charité. Dans l'éternité, nous vivrons en Dieu et toute notre vie sera devenue charité. Nous ne pourrons rien faire d'autre dans l'éternité que d'aimer. Ce sera extraordinaire. Cela. Et toute notre jouissance, tout notre bonheur viendra justement de cet échange éternel d'amour entre Dieu et moi. Voilà. Mon âme qui s'emplit de Dieu et qui, si on peut dire, rend Dieu à Dieu. Voilà. Dieu qui aura rempli mon âme. Et moi, je serai tellement heureux de posséder Dieu que eh bien, j'essaierai de rendre Dieu à Dieu pour faire le bonheur de Dieu. Si c'est possible. Dieu n'a pas besoin de cela, mais c'est le mouvement spontané de l'amour, ça. C'est de vouloir faire le bonheur de l'autre, voyez. Et je serai tellement, dans l'éternité, tellement saisi par cette bonté, cette beauté, cette perfection de Dieu, eh bien, que je ferai tout ce que je pourrai pour essayer de le rendre heureux. Ce n'est pas possible, mais j'essaierai quand même. Et ma joie sera là, et mon bonheur sera là. Ouais. Comme ici-bas, je dirais, dans un cœur qui est normal, un cœur qui est droit, un cœur qui est saint. Et toute notre joie, c'est de faire plaisir à ceux que l'on aime. Même s'il faut se priver de quelque chose pour cela, même s'il faut renoncer, s'il faut se fatiguer, etc. Et voilà, c'est tout. Notre joie, elle est dans le bonheur de ceux que l'on aime. Demandez à une maman, enfin quoi, ben, tout le monde connaît ça. Une mère, elle est heureuse quand ses enfants sont heureux. Même si elle doit renoncer à tout un tas de choses pour ça. Et tout. Son bonheur, c'est le bonheur de ses enfants. Eh bien, le bon Dieu, c'est pareil. Le bon Dieu est notre mère. Et au paradis, nous serons un petit peu comme ça, aussi comme des mères du bon Dieu. Hein, puis, c'est une image. Hein. Bon, nous essaierons de faire la joie de Dieu. Et tout notre bonheur sera d'admirer, hein, de constater la joie de Dieu, le bonheur de Dieu, la perfection de Dieu. Ce sera merveilleux. Et oui, alors, déjà ici-bas, bien, essayons de vivre un petit peu cette vie d'intimité, cette vie secrète avec Dieu, vie de foi qui nous unit à Dieu déjà, qui nous relie à Dieu par l'intelligence. Nous adhérons à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu, vie d'espérance, bon, qui nous fait désirer Dieu, bien sûr, et croire en la possibilité de posséder Dieu un jour. Et puis la vertu de charité qui déjà ici-bas, hein, par laquelle nous, c'est saint Jean de la Croix qui avait cette parole, ouais, cette citation, bien, c'est un petit peu ce que nous disions là, la charité par laquelle nous donnons Dieu à Dieu. Déjà ici-bas, et oui, la vertu de charité, la charité en nous, c'est un don de Dieu. Et si j'ai en moi la charité, si, c'est parce que Dieu me l'a donnée. Et bien lorsque je rends la charité à Dieu, lorsque j'aime Dieu, et bien je donne Dieu à Dieu. Ouais. Je rends à Dieu ce qu'il m'a donné de lui, et c'est justice, puisque ça lui appartient, hein, puisque cette vie théologale lui appartient, il est tout à fait juste que je le lui rende, ouais. Et c'est là qu'est ma perfection. Oui, c'est ça. C'est cela un petit peu la grande révélation de l'Évangile, hein, ce que nous avons déjà évoqué un petit peu quand nous avons parlé de la loi nouvelle. Oui. C'est extraordinaire cela. C'est quand même autre chose que la loi ancienne, oui, avec ses commandements. Oui. Et nous comprenons très bien aussi pourquoi Jésus-Christ nous a dit, eh bien, qu'il n'y a plus que deux grands commandements. Hein, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voilà, dans ces deux commandements sont contenus la loi et les prophètes. Tout se ramène là. Toute notre loi, et c'est là toute la loi nouvelle, eh bien, c'est d'aimer, c'est la charité, c'est la vie de la grâce. Hein, si vous vous rappelez ce que nous disait saint Thomas, la loi nouvelle, hein, c'est la grâce de l'Esprit Saint donnée aux fidèles par la foi au Christ. Vous voyez, tout se tient, hein. La grâce de l'Esprit Saint donnée par la foi au Christ. Oui. La première grâce, eh bien, c'est la foi. La première grâce que donne Dieu, c'est la foi. Et sur cette foi, eh bien, vont se développer ensuite, eh bien, les autres vertus, l'espérance et la charité. C'est ce que nous l'avons déjà dit deux ou trois fois, mais ça fait rien. C'est ce que l'Église exprime d'une façon magnifique dans la cérémonie du baptême. Magnifique, ça est comme pédagogie, cette cérémonie du baptême, extraordinaire. Les trois premières questions que le prêtre pose à l'enfant. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Attendez, la foi d'abord. Attendez. La foi, voilà, la première vertu que l'on demande. Que demandez-vous à l'Église? La foi. Voilà. Si l'Église ne me donne pas la foi, je ne peux rien faire. C'est fini, il faut qu'elle commence par me donner la foi. Bien. Que vous procure la foi? Eh bien, ça, c'est l'espérance. Eh oui, oui, la vie éternelle, c'est le désir de la vie éternelle. La foi va me procurer la vie éternelle, ça, c'est l'espérance. Si donc vous voulez posséder la vie éternelle, alors là, c'est le prêtre qui donne, cette fois, le commandement, tu observeras les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et voilà, le commandement de l'amour. Mais le commandement de la charité n'est donné et ne peut être donné que parce qu'il y a eu d'abord le don de la foi et l'espérance. On ne peut pas vous demander d'aimer Dieu si d'abord vous ne croyez pas en Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est sûr, ça. Mais on ne peut pas aimer quelque chose que l'on ne connaît pas, quelque chose à laquelle on n'adhère pas, quelque chose à laquelle on ne croit pas. Donc il faut commencer par croire. Ensuite, le désir, la vie éternelle. Eh bien, tu veux la vie éternelle? Eh bien, aime Dieu. Voilà. Aime-le de tout ton cœur et tout ira bien.